paura.
Remue-ménage. Remue-ménage, c'est Ondes Femmes sur Radio Zone 93,8, tous les mercredis en direct, de 17h à 18h30. L'émission est rediffusée le jeudi à 10h et 15h. Remue-ménage sur Radio Zone 93,8. Bonjour et bienvenue dans Ondes Femmes, Radio Zone 93.8, comme tous les mercredis, Ondes Femmes sur votre antenne, de 17h à 21h et en direct de 17h à 18h30, et bien c'est Remue-ménage. Aujourd'hui, c'est notre émission mensuelle de nos amis de l'Inédit, en compagnie toujours et fidèlement d'Annette Zimmermann et Evelyne Merlard, et elles ont eu la très bonne idée d'inviter aujourd'hui Michel Strohn des éditions Metropolis. Alors je vous salue toutes les trois. Bienvenue dans le studio de Radio Zone.
Bonjour Catherine.
Et nous allons peut-être nous installer, nous dire bonjour à vous, auditrices et auditeurs, et à nous quatre qui sommes là réunis. Et en attendant, eh bien, je vous propose un peu de musique. On reste en Amérique du Sud en compagnie de Elba Ramalho, une brésilienne, et puis de Mercedes Sosa, une argentine.
Juancito caminador murió en un lejano puerto. El prestidigitador poca cosa deja el muerto. Terminada su función, canción, baraja y paloma, todo cabe en una caja, todo menos la canción. Ponle luto a la pianola, al conejo, a la estrella, al barquito, a la botella, al botellón, a la bola. Música de barracón, canción, baraja y paloma, flor de trapo sin aroma. Todo menos la canción. Ponle luto a la veleta, al gallo, al reloj de cuco, al fonógrafo, al trabuco, al vaso y a la carpeta. Prestidigitación, canción, paloma y baraja, el tiempo humilla y ultraja, todo menos la canción. Mucha muerte a poca vida, que lo entiende una vez la reina del ajedrez. Despida, truco mágico, ilusión, canción, baraja y paloma, que todo en broma se toma.
todo menos la
Je vous le disais tout à l'heure, aujourd'hui, mercredi 27 mai, eh bien, c'est notre rencontre mensuelle avec nos amis de la librairie des femmes L'Inédite à Genève, en la compagnie d'Annette Zimmermann et Evelyne Merlac, qui sont nos traditionnelles animatrices de cette émission. Et aujourd'hui, Evelyne a eu la très bonne idée de convier Michel Strun, qui est responsable des éditions Métropolis, parce que Evelyne voulait nous parler d'un livre qu'elle a lu, écrit par Liana Badre, qui s'appelle « Une boussole pour un soleil ». Alors, Evelyne, peut-être présente-nous tout de suite. Je te laisse nous présenter Michel Strun et je suppose qu'elle va se présenter elle-même toute seule.
Comme je disais tout à l'heure, je ne la connais pas très bien, mais j'ai entendu beaucoup de bien d'elle. Moi, je sais simplement qu'elle est l'éditrice de ces éditions Métropolis. Et moi, bien sûr, ça m'a... Je trouvais intéressant qu'on parle une fois de l'éditrice de livres au lieu de parler seulement d'auteurs qui nous sont lointains aussi, ou bien du livre en soi. Pour une fois, on avait l'occasion, puisque Michel est éditrice à Genève, de parler avec la personne qui finalement donne la possibilité d'un message tel que celui qui est apporté par ce livre, Une boussole sur le soleil, qui donne la possibilité d'envoyer ce message sur les clientes que nous sommes, enfin toutes les personnes qui s'intéressent au livre. Et alors, bien sûr, moi j'ai aussi, il m'est venu, à cause de ce livre en particulier, tout de suite une série de questions à lui poser. Et puis je vais même me faire un peu l'avocate du diable. Et alors, voilà, parce que...
Mais c'est aussi le métier d'éditrice, en plus, qu'on va découvrir aussi, hein, j'imagine, par le biais des questions que nous allons poser.
Alors, est-ce que tu veux qu'on lui pose d'abord, on lui demande pourquoi elle est devenue éditrice ?
Par exemple, très bonne question. Hein ?
Un accident. C'est un accident, peut-être. Un accident de parcours qui fait que j'étais plutôt de l'autre côté, et puis j'ai fini par passer de l'autre côté de la table. On m'a apporté un manuscrit une fois, parce que je venais de publier un livre, et on m'a apporté un manuscrit en me disant « Est-ce que tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire de ce manuscrit ? On aimerait le publier. » Je l'ai lu, et je l'ai trouvé magnifique. Et puis, j'ai essayé de poser des questions à des gens. On m'a dit « Oh, je sais pas. » Enfin, bref. Finalement, je me suis dit que j'allais le faire moi-même. Alors, quand on commence avec un livre, c'est comme un virus. On est obligé de continuer. On peut pas s'arrêter.
Mais là, tu travailles toute seule ou tu as toute une équipe qui t'entoure ? Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut beaucoup de fonds pour être éditrice ? Comment ça se passe ?
Non, je crois qu'il faut, pour commencer, beaucoup de courage et beaucoup d'inconscience. Il faut prendre les livres. Enfin, moi, je n'ai pas une grande équipe. J'ai une équipe plutôt limitée. Donc, je fais à peu près tout. Et comme j'étais traductrice de formation au départ, c'était facile pour moi de corriger les traductions, de corriger les textes. Comment te dire ?
Et ça fait combien d'années maintenant que tu es dans ce métier ?
Ça fait 4 ans que je fais ça.
4 ans et tu as déjà publié là, une belle liste d'ouvrages, si
Environ
je me réfère.
16 ouvrages.
Et j'ai vu que, un peu dans tous les genres, enfin, tu n'es pas que dans ce qu'on appelle la littérature proprement parlée. Toi, tu fais des essais, tu fais de la poésie, il y a le dictionnaire féminin-masculin, enfin, il y a beaucoup de genres.
C'est-à-dire que je crois que c'est difficile de décider de faire que de la littérature parce que, bon, premièrement, j'habite Genève, les bons textes en français ne m'arrivent pas forcément parce qu'il y a déjà beaucoup d'éditeurs en Suisse. Et puis, d'autre part, en fait, c'était toujours une histoire un peu de coup de cœur. Alors, je crois que mes lectures sont diverses, donc mes éditions sont diverses. Bon, j'aime beaucoup les dictionnaires, j'aime beaucoup les mots. Alors la première fois qu'on m'a apporté un dictionnaire, c'était le dictionnaire des mots inexistants. Je l'ai trouvé fabuleux, donc je n'ai pas résisté à l'éditer. Quant à la poésie, très honnêtement, je crois que je me limite à 2 volumes que je viens de faire parce que c'est extrêmement, extrêmement difficile. Et je crois qu'il faut être spécialisé pour faire la poésie. Mais je suis très fière des deux ouvrages que j'ai publiés en poésie. Je pense qu'ils sont exceptionnels.
Et nous, en tant que libraire, on a beaucoup de peine aussi à placer nos livres de poésie. Hein. On nous en demande très, très peu.
Je crois très honnêtement qu'on n'est pas une culture de poésie. Je crois qu'il y a d'autres cultures, les anglo-saxons, peut-être les Allemands, je ne sais pas. Mais je sais que les anglo-saxons lisent beaucoup de poésie. Par contre,
les Sud-Américains aussi.
Oui.
Et ils en lisent à haute voix dans les cafés.
C'est ça, les Russes aussi. Je crois que c'est vraiment propre à la civilisation française d'aujourd'hui, de ne pas lire de la poésie.
Et Michel, alors, si on en vient à ce livre-là, pour lequel je vais me faire l'avocate du diable, à toi Michel, tu es une femme de confession juive, et puis là tu publies une écrivaine palestinienne, qui a fait un parcours d'exil douloureux. Alors pourquoi alors ? Hein, tu l'apprends comme auteur alibi, c'est quoi ça ?
Non, c'est pas un auteur alibi du tout. Premièrement, j'ai commencé par publier un essai qui s'appelle « Le refus d'assumer son passé historique » ou « L'imbroglio israélo-palestinien », qui est déjà, si tu veux, un essai sur le problème israélo-palestinien qui m'intéresse énormément, bien entendu. Alors, je crois qu'on n'est pas vraiment de confession juive, je crois qu'on est de culture juive. Je crois que c'est très important parce que ce n'est pas qu'on est de... On peut être catholique, je ne sais pas comment dire. On est plutôt de culture. Alors moi, je suis très attachée, bien sûr, à la culture juive et je suis très attachée, bien sûr, au problème israélo-palestinien parce que je pense que c'est l'avenir du peuple juif qui en dépend également. Alors, cette palestinienne, peut-être que c'est aussi une manière de dire qu'on peut dialoguer avec les Palestiniens. Je ne suis pas naïve. Je ne suis pas naïve. Ce n'est pas un livre de naïveté. J'ai beaucoup de difficultés à dialoguer avec des pro-palestiniens genevois, par exemple, parce que je les trouve totalement naïfs et ridicules. Premièrement, leurs exigences vont bien au-delà des exigences des Palestiniens que j'ai rencontrés ou que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Je crois qu'ils ont plutôt un antisémitisme caché derrière leur pro-palestinien. Ils sont pro-palestiniens, mais en vérité, ils cachent beaucoup d'antisémitisme. Alors, de nos jours, on ne peut plus être antisémite, ça ne se porte pas très bien. Il y a eu tout de même l'Holocauste, et puis en Europe, on a quelques ennuis là-dessus, surtout en ce moment, Touvier, tout ça. Par contre, on peut être pro-palestinien et anti-israélien. Alors, on n'a pas le sentiment, en étant anti-israélien, d'être antisémite. Mais en vérité, derrière les propos que j'entends ici à Genève, se cache toujours une essence antisémite. Et moi, en tant que juive, je tenais beaucoup à publier ce livre parce que je pense justement que cette femme montre qu'on peut avoir un parcours extrêmement douloureux, parce qu'elle a un parcours très douloureux, mais à aucun moment elle attaque les juifs ou les israéliens comme le font, par exemple, tous les gauchistes genevois que je rencontre.
Bon, tu sais, hein, je t'ai posé cette question, c'était pas une question piège, mais je me suis dit, elle a dû réfléchir, elle a pas publié ça comme ça, donc je vais lui demander.
Non, c'est un discours terriblement politique que j'ai fait là. C'est pas du tout innocent, c'est politique, parce que je pense que c'est un livre qui a des défauts, peut-être de construction par moment, pour nous, européens, parce que c'est des fois difficile à comprendre où cette femme elle mélange présent, passé, futur, et je crois qu'en arabe ça se fait toujours. Du reste, il y a dans ce livre quelque chose que je trouve très intéressant par rapport à cette femme et sa culture, c'est qu'il y a beaucoup de pensées magiques par moment. On disparaît, on va ailleurs, on fait des... Mais j'ai trouvé très intéressant.
Et alors, comment tu l'as rencontrée?
Ah, je ne l'ai pas rencontré.
Tu ne l'as pas rencontré? Non. Alors comment ça s'est fait quand même?
Quelqu'un m'a donné le livre en anglais. Et j'ai lu le livre en anglais et j'ai trouvé très intéressant. De nouveau, parce que j'ai trouvé intéressant, parce qu'elle parle de son exil, mais elle parle de son exil aussi bien envers les Israéliens qu'envers les Jordaniens, qu'envers les Libanais. Donc, il y a non pas un amalgame comme on a tendance à le faire ici, il y a une réalité, c'est-à-dire que Septembre Noir, c'est une réalité jordanienne. Sabra Shatila, contrairement à ce que disent les gens ici, c'est une réalité libanaise, même si l'armée n'était pas très loin à l'armée israélienne, mais c'est tout de même pas elle qui a commis Sabra et Shatila. Et il y a, il y a toute cette polémique sur le problème israélien qui est très vivant en elle, et pour moi c'est très important. D'autre part, pour moi ce qui était important, c'est qu'elle parle des femmes, et dans sa lutte pour la libération des femmes, elle en parle extrêmement bien dans ce livre. Et moi, qui suis féministe et militante, par moment, je trouve fondamental que les femmes palestiniennes s'expriment à ce sujet plutôt que nous nous exprimions à ce sujet pour leur part, à leur place.
Non, absolument. Moi, j'ai trouvé justement cette partie du discours féministe qu'il y a dans ce livre-là m'a paru vraiment très, très intéressant. Et je dirais... Peut-être d'une certaine manière, c'est ce qui la sauve de ne pas tomber dans des catégories manichéistes habituelles. C'est sa condition de femme et la conscience qu'elle en prend et de vouloir en sortir. Enfin, elle l'a fait apparaître, cette condition de femme palestinienne, dans différents personnages, non, dans les mères plus traditionnelles, etc. Enfin, on en parlera peut-être après, là, du contenu même. Mais bon, alors je vais me te poser encore... toi, tu ne l'as pas rencontré, mais quand même, vous vous êtes peut-être écrit par la suite.
Alors, j'ai lu ce livre en anglais, et je savais qu'il n'était pas traduit en français. Je lui ai écrit, elle habite la Tunisie. Son mari est un proche de l'OLP. Pour dire que c'est une femme qui est politisée, elle aussi, je lui ai demandé si elle était d'accord que je fasse la traduction. En français, elle était d'accord. Maintenant, il faut tout de suite dire que Liana Bard sait que je suis juive. Et elle sait que, en fait, je milite et mon mari, nous militons dans des milieux, disons, pour la paix, mais pas à la paix, pas des milieux suisses pour la paix, des milieux internationaux pour le Moyen-Orient. Et je crois qu'elle a accepté. Je pense qu'elle était même assez contente qu'une juive publie son livre. Je pense qu'autrement, elle n'aurait pas accepté.
Et tu n'as pas eu d'écho depuis, parce qu'il est très récemment paru.
Il vient d'être publié. Je sais qu'elle était très contente de la publication, mais il vient de sortir. Il sort à l'instant, donc je n'ai encore aucun écho. Le seul écho que j'ai eu, c'est un petit entrefilet dans la quinzaine littéraire, mais ça, c'est plutôt pour le prestige, pour les lettrés qui savent qu'il a été répertorié dans la quinzaine littéraire. Voilà. Mais d'accord. C'est encore la seule... Il n'y a pas encore eu d'écho.
Alors, moi, je ne savais pas donc, que tu l'avais traduit de l'anglais en français.
Non, de l'arabe.
C'était de l'arabe.
C'était ça ma question.
Voilà, et moi, je voulais aussi te poser ça, une question sur quel problème peut poser une traduction de l'arabe en français.
Alors, énorme. J'ai épuisé trois traducteurs avant d'en trouver un, parce que Liana Bard écrit dans un arabe palestinien. Et tous les traducteurs ou traductrices auxquels je me suis adressée m'ont dit on n'aime pas cet arabe, on ne comprend pas cet arabe, c'est à la limite du dialecte, enfin, c'est l'arabe palestinien. Moi, ça m'intéressait d'avoir une femme qui écrivait dans sa langue et pas justement qui reprenait tous les schémas culturels dans lesquels elle avait été élevée. Alors, j'ai finalement trouvé une traductrice à Tunis, que je n'ai jamais rencontrée du reste, qui était proche de Liana Bard et qui m'a envoyé quelques pages. On était d'accord, on a du reste beaucoup collaboré finalement au niveau de l'écriture, pas au niveau de la traduction. Elle, c'est une palestinienne, donc elle sait l'arabe palestinien, et c'est comme ça que ça s'est fait, et ça a pris presque 2 ans.
Parce qu'il y a eu en fait une relecture de ta part d'une première traduction.
Ça arrive parfois,
oui. Parce que je pense, moi j'ai été extrêmement impressionnée par le style de rédaction du livre.
Enfin oui, je crois même que je l'ai mis parce que j'ai beaucoup travaillé dessus. Mais je pense que ça arrive parfois que plusieurs traducteurs se mettent ensemble. Parfois il y a d'un certain côté, il fallait avoir quelqu'un qui parle le palestinien.
Tout à fait.
C'était indispensable. Donc la traduction est absolument correcte. D'autre part, chaque fois que j'ai pu faire des corrections, je les renvoyais à la traductrice qui acceptait ou refusait. Mmh. En général, il s'agissait simplement de faire du peaufinage de la langue plutôt que d'entrer dans le texte au niveau de la traduction.
Et pourquoi le titre? Alors, j'ai vu qu'en anglais, le titre, c'était en fait une boussole pour un tournesol, Sunflower.
Oui, mais je trouve très laid, tournesol, en français.
Alors, je me suis dit, pourquoi ça a pas ça? C'est devenu une boussole pour un soleil.
Parce qu'un soleil, c'est aussi un tournesol.
Oui, c'est parfaitement. C'est synonyme. C'est synonyme. Ah, oui, mais je pense que tu mets exactement le doigt sur ce qui fait un des aspects les très intéressants de ce livre. C'est qu'on sent très bien que le langage était au moins aussi important pour la traductrice que pour l'auteur. Et je crois que ce n'est pas du tout anodin de dire « je choisis le mot soleil plutôt que le mot tournesol ». Ça dénote tout un contact avec la langue, avec ce qu'elle a voulu faire, probablement. Et je trouve que c'est extrêmement réussi, alors.
Ah, moi, je vous remercie, en tout cas. Je vous remercie, mais en tout cas, je pensais que soleil était vraiment... avait une signification beaucoup plus importante que tournesol. Mmh. Ça ne se limitait pas à une simple fleur, je crois. C'était vraiment pour retrouver le soleil en soi. Enfin, il
pourquoi
m'a parlé.
Pas Mais les interprétations sont toujours sous-jacentes à énormément de termes dans ce livre. On peut interpréter beaucoup, dans ce sens-là, c'est très proche de la poésie.
Je crois qu'il y a des pages qui sont très, très proches de la poésie.
Ah, oui, absolument.
Vraiment. Il y a vraiment des envolées lyriques exceptionnelles.
Ouais. Tout à fait.
Oui, moi j'essayais de retrouver la page où il me semblait que j'avais repéré un peu, comment je dis, pas repéré, mais enfin, où je comprenais mieux le titre. Mais je ne sais pas en fait si c'est celle-là, où il y a un personnage qui est mentionné, qui est Salima Aladja.
Oui.
Et pleura, et le youyou déchirant se prolongea jusque dans mes entrailles, emportant avec lui les remparts de flux et de reflux, la boussole, les cartes et la terre de rêves évanouis.
C'est ça,
donc elle a perdu la boussole et elle veut retrouver une boussole.
C'est ça. Oui. Je crois que dans la mesure où c'est vraiment le roman de son errance, c'est-à-dire où en permanence elle parle de sa ville natale, comme de quelque chose dont qu'elle a perdu et qui est très très fort en elle, et elle est toujours en train de le rechercher. En fait, elle a perdu la boussole, mais elle a aussi perdu le soleil. Ouais. C'est ça.
Oui, sa ville natale, c'était Jéricho. Hein.
Oui, en fait, elle est née elle-même à Jérusalem. Alors, elle se défend, parce que je lui ai parlé au téléphone, elle se défend de dire que c'est un roman autobiographique. En vérité, je crois que c'est en partie autobiographique, mais elle a transcendé son histoire avec une histoire d'une jeune femme. Et je pense aussi qu'elle l'a transcendé parce qu'elle voulait raconter l'histoire d'une jeune femme qui essayait d'être moderne, qui essayait de lutter pour les droits des femmes. Alors peut-être qu'elle préférait parler par personne interposée.
Oui, bien que, comme tu dis, moi je sentais bien des accents je sais pas, autobiographique, parce que même en reprenant son parcours à elle, qui est brièvement décrit sur la couverture, on le retrouve dans le livre, sauf la dernière partie. On parle pas de Damas, hein,
c'est ça,
où elle a eu un dernier exil avant Tunis,
oui.
D'où elle a été chassée aussi,
c'est ça, oui.
Par les Syriens.
Oui.
Parce qu'elle était trop féministe ou quoi?
Non, pas du tout, pas du tout. C'est parce qu'elle était...
Ah oui, il ne faut pas que je te regarde. Il faut que je regarde mon micro aussi.
Non, elle était chassée parce que je crois que tu sais que les Palestiniens ont souvent été chassés des endroits où ils se trouvaient parce qu'ils étaient trop activistes, parce qu'ils faisaient beaucoup de politique sur place et qu'en fait, ils n'étaient pas forcément aimés.
Et donc, elle a. C'était,
c'est, alors, elle a chaque
à Tunis,
fois...
elle a trouvé maintenant une, plus ou moins une stabilité.
Non, je ne crois pas qu'elle veut rester à Tunis. Je crois que l'OLP en ce moment est à Tunis, comme il a été à Damas, comme il a été à Beyrouth, et puis, en attendant d'être ailleurs, et en attendant de retourner en Israël, je suppose.
Ah oui, j'avais oublié que tu avais dit qu'elle était mariée avec un dirigeant de l'OLP. Et bien sûr, c'est pour ça qu'elle est à Tunis et pas ailleurs.
En Palestine, de son point de vue, évidemment.
Oui, en Palestine, bien entendu.
Moi, je voulais vous demander, Michel Strunl, vous parliez tout à l'heure d'un choix politique quand vous avez choisi d'éditer ce livre-là. Est-ce que c'est une chose que vous devez faire chaque fois que vous choisissez un livre?
Non.
Est-ce qu'en fait, les éditions sur Métropolis, c'est une sorte, un fil rouge aussi?
Non, je ne crois pas. Je pense qu'il y a certainement, quelque part, je crois que nous sommes tous toutes politiques. Alors, il est évident que quand je choisis le dictionnaire des mots de féminin-masculin, c'est un choix politique. C'est évident.
Ouais, ça
c'est évident. En plus, je suis contente de le faire. Je suis même très contente de le faire. En choisissant le livre qui a été écrit par Michael Arsgaard et Maurice Troon, c'est évident que c'est un choix politique. C'est parce que je suis pas prête à publier n'importe quoi en politique. C'est évident. Je crois que quand il s'agit de la poésie pure, la politique s'arrête.
Mais de choisir de la poésie, c'est peut-être un choix politique, dans le sens que c'est un engagement de publier de la poésie. À la mesure où vous disiez tout à l'heure, c'est peu lu chez nous. Donc, pour un éditeur, vous choisissez pas simplement de publier ce qui se vend, en tout cas.
Non, mais je pense que c'est indispensable de choisir des bons poètes. Et je crois que les deux poètes que j'ai choisis sont magnifiques. Je crois que c'est indispensable pour véhiculer le langage, de continuer à faire un peu de poésie. Même, en effet, si c'est économiquement un désastre.
Donc, il n'y a pas de fil rouge. Métropolis, ce n'est pas une couleur certaine. Vous, c'est les livres qui vous plaisent ou qui vous semblent importants à un moment donné ou à un autre, mais il n'y a pas de fil conducteur entre chaque livre.
Non, écoutez, moi, je crois que je ne suis pas, finalement, je ne me suis jamais vraiment insérée dans un parti politique. Jamais. Mis même dans une tendance politique. Disons que j'ai des idées que je partage avec beaucoup de gens, mais je crois que j'ai besoin de mon indépendance fondamentalement. Et je ne supporte pas d'appartenir à une école ou à une chapelle. Donc,
quand je disais couleur, je m'excuse, je ne pensais pas du tout à un parti. Hein. Je pensais à un fil conducteur dans le sens une idée que vous avez et que vous essayez de prolonger au fur et à mesure de vos choix de livres. Hein. Ça n'a rien à voir du tout avec l'idée d'une couleur partisane.
Je crois que peut-être que les éditions, c'est peut-être un peu ce que je ressens moi-même. Disons que voyez-vous, j'ai réédité le livre de Jeanne Hersch et j'ai été très critiquée de le faire. Mais en vérité, c'est un texte de 1940 que je trouve magnifique. Donc, en tant qu'éditeur, je trouvais magnifique d'éditer ce livre. Bon, c'était un peu avant l'affaire Coppe et son livre sur l'affaire Coppe. Mais je crois qu'il faut aussi, il faut pas exagérer. Je veux dire que Jeanne Hersch n'est pas Brasilac. Donc, il faut quand même ménager un peu ses opinions.
Vous avez publié le dictionnaire des noms masculins féminins et vous dites éditeur.
Éditrice.
En parlant
de
vous.
J'ai dit éditrice.
Non,
là,
vous voulez dire
éditeur. Mais je me dis toujours éditrice. Non.
Oui.
Sur mon papier à lettres, sur mes cartes, c'est toujours éditrice.
C'est une chose qui, justement, par exemple, pour vous, c'est clairement un engagement, par exemple, ça, du côté des femmes, de publier ce dictionnaire.
Ah oui, je crois que sans changement de langage, nous n'arriverons à rien du tout. Surtout, je pense qu'en français, en anglais, peut-être qu'il y a moins de difficultés, mais je crois qu'en français, on est obligé de changer de langage.
Et les livres seront un bon outil.
Et pour souligner encore sa ligne féministe, moi je signalerais Amanda ou ce fruit maudit de vos entrailles, hein, de Thérèse Moreau sur l'avortement. Et puis il y a aussi, je vois en préparation, la Bible et l'histoire des femmes, ça va être intéressant ça. Mm-hmm. Essai à la recherche d'un sens féminin. Mm-hmm.
C'est Lucie Bolland qui est en train de terminer le livre. Et puis, je crois que le premier livre que j'ai publié, c'était La traversée de la nuit, c'était le témoignage d'une femme pendant la guerre. Et ce qui m'avait intéressée dans ce témoignage, c'était justement le fait que c'était une femme qui se disait ordinaire et qui avait réussi des choses magnifiques.
Et je vois aussi des textes sur les Caraïbes, Le nègre crucifié.
Ah oui, mais ça c'est un homme, c'est pas une femme qui écrit.
Oui, non, mais mais comme on a souvent dit que on pouvait assimiler la condition des noirs à la condition des femmes en tant qu'exploitées, qu'il y avait des similitudes.
Oui, mais c'est pendant, c'est vrai. Mais sûrement.
En minorité vrai. Majoritaire.
Mais il faut pas oublier, je suis quand même une minorité. Même si on parle beaucoup des juifs en ce moment, mais je suis une double minorité, juive et femme.
Bien. Est-ce que tu nous as trouvé de la musique palestinienne?
Mais oui, je vous ai même trouvé une très belle chanson chantée par une femme palestinienne. Vous avez envie de l'entendre?
Oui.
Alors, je vous la propose.
عبر الدجى رمحا من اللهب شدي عليك الجرح وانتصبي عبر الدجى رمحا من اللهب يا ساحة الأنواء كم عصفت في